bienvenue sur Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 29 juin. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
C'est évidemment un 7-9 spécial ce matin au lendemain du second tour des municipales. Second tour marqué par une déferlante verte sur tout le territoire, mais aussi par une abstention historique. Le Parti Socialiste et les Républicains font mieux que résister. La République En Marche a passé, elle, une mauvaise soirée. Jusqu'à 9h, reportage un peu partout en France, rencontre avec les militants, les élus et de nombreux invités qu'on va recevoir ensemble, Léa, pour décrypter cette élection. À 7h15, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, et à 7h45...
Trois nouvelles voix, trois nouveaux visages, trois nouveaux maires qui incarnent cette vague écolo. Il faudra retenir leurs noms. Grégory Doucet, le nouveau maire de Lyon qui a défait Gérard Collomb, mais aussi Jeanne Barseguian, maire de Strasbourg, Pierre Urmic, maire de Bordeaux. C'était deux des grandes surprises de la soirée. Ils seront tous avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, nous retrouverons pour l'interview du délégué général de la République En Marche, Stanislas Guérini. À 8h35, place à une analyse plus large du scrutin avec le spécialiste de l'opinion, Jérôme Jaffray. Les autres titres, Agnès.
La très nette victoire d'Édouard Philippe au Havre, mais un avenir incertain pour le Premier ministre. Le suspense à Marseille, où la gauche est arrivée en tête hier soir. Et puis une première occasion pour Emmanuel Macron de verdir son quinquennat. Le chef de l'État reçoit aujourd'hui les participants à la Convention citoyenne pour le climat.
France Inter.
Une abstention historique et le triomphe des écologistes. Voilà donc résumé en deux titres le second tour des élections municipales qui s'est déroulé hier dans 4820 communes. Plus de trois mois après le premier tour, crise sanitaire oblige. C'est d'ailleurs la peur d'aller voter que mettent en avant une partie des abstentionnistes. Abstention qui avoisine les 60%. Une désaffection des électeurs qui inquiète Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon parle, lui, de grève civique. Dans ce contexte, une tendance très forte se décide tout de même ce matin, la nouvelle dimension des écologistes, avec comme ville symbole Bordeaux, qui passe au vert après 75 ans à droite. Élodie Forêt.
Au milieu de la foule déchaînée,
c'est incroyable, on n'a jamais douté de nous, mais quand même c'est incroyable.
Ça fait du bien, c'est historique.
Pierre Urmic, le discret, laisse enfin éclater sa joie après une soirée haletante et des résultats serrés. Fondateur historique de Génération Écologie, il savoure une victoire attendue depuis si longtemps, depuis ses 30 années à ferrailler contre la droite bordelaise.
Moi je porte l'écologie depuis quelques années, j'ai connu des heures fastueuses comme ce soir, j'ai connu aussi des basses eaux, mais je me suis toujours accroché en étant persuadé qu'un jour je serai en phase avec les bordelaises et les bordelais. Ce soir, j'ai la conviction, et il n'y a qu'à voir l'ambiance qu'il y a dans cette cour du Palais Rouen, j'ai vraiment conscience d'être parfaitement en phase avec les aspirations des habitants de Bordeaux.
En phase donc avec cette ville qui l'a adoptée, lui l'avocat d'origine basque, à l'allure tranquille qui promet aujourd'hui un mandat sans arrogance, respectueux de son opposition, de Nicolas Florian qui siégera désormais simple conseiller.
Je ne baisserai pas les bras, c'est difficile, je ne vous le cache pas, c'est une épreuve. Bon vent à Bordeaux et vive les Bordelaises et les Bordelais.
Les Bordelais qui hier ont choisi de tourner une page, d'inscrire un nouveau nom et une nouvelle couleur politique sur la façade du Palais Rohan.
Victoire d'Europe Écologie Les Verts également à Lyon, où Grégory Doucet s'impose face à Gérard Collomb qui sombre après presque 20 ans à la tête de la ville. Victoire des Verts à Strasbourg, Poitiers, Besançon, Tours, Annecy, Colombes et bien sûr Grenoble. La coalition gauche-verte qui échoue à Toulouse avec la victoire du maire sortant LR Jean-Luc Moudenc. Échec sur le fil également à Lille où la socialiste Martine Aubry est élue pour un quatrième mandat avec 227 voix d'avance sur son opposant écologiste. Victoire socialiste à Nantes également. Johanna Roland réélue, mais avec une abstention qui frôle les 70%. Succès globalement des Verts et échec de La République En Marche, le plus cuisant à Paris, où Agnès Buzyn, en troisième position avec 13% des voix, ne siégera même pas au Conseil de Paris. Cédric Villani non plus. La socialiste et maire sortante Anne Hidalgo obtient près de 50% des suffrages. Seule la très nette victoire au Havre du Premier ministre redonne des couleurs au gouvernement. 58,83% pour Édouard Philippe, qui a rendez-vous ce matin à 10h à l'Élysée. Alors, quel avenir pour le Premier ministre? Élément de réponse avec Karine Bécard.
Comment se séparer d'un Premier ministre qui a décroché le meilleur score de tous les candidats de la majorité présidentielle? L'affaire n'est pas facile, Édouard Philippe le sait, mais pas question pour lui de mettre la pression sur Emmanuel Macron.
Les résultats sont nets. se trouver dans une situation où vos concitoyens vous chargent de ce mandat démocratique, c'est à la fois un acte de confiance et une responsabilité exceptionnelle que, évidemment, nous allons tous prendre très au sérieux.
Est-ce que ça veut dire qu'il pense, qu'il souhaite redevenir très vite le maire du Havre ? Celui qu'il remplace, Jean-Baptiste Gastine, n'a visiblement eu droit à aucune confidence. Il attend les annonces du président Macron.
J'espère qu'on les connaîtra rapidement, puisque effectivement, elles auront un impact ici au Havre. J'espère que dans les prochains jours, on saura.
Les prochains jours ? Les Havrais, comme Michel, un soutien, un fidèle d'Édouard Philippe, pensent que cette fois, il revient.
Il l'a suffisamment dit, je pense qu'il a bien fait comprendre aux Havrais qu'effectivement, c'était sa ville.
Oui, mais jamais Édouard Philippe n'avait été aussi populaire auprès des Français. Emmanuel Macron sera-t-il obligé de le garder à Matignon ? La forte poussée des Verts à ces élections ne plaide pas complètement pour cette combinaison.
Et puis il y a le cas Marseille où la liste de Michel Rubirola, le printemps marseillais, est en tête avec 38% des suffrages contre 30% pour Martine Vassal, l'héritière LR de Jean-Luc Godin. Mais comme à Paris et à Lyon, le scrutin de Marseille se joue par secteur avec un troisième tour hautement incertain vendredi devant les 101 conseillers municipaux. Alors Martine Vassal, elle, veut encore y croire.
Ce soir, il n'y a pas de majorité à Marseille. Ce soir, il n'y a pas de maire à Marseille. Il y a une courte défaite dans mon secteur, dans un contexte national particulier, avec une vague soi-disant verte qui a tout emporté. Il y a donc bien une situation de blocage que je redoutais. Comment allons-nous gouverner Marseille ? C'est la raison pour laquelle ma volonté pour Marseille, ma volonté pour la métropole reste intacte. Et mon combat continue.
Un propos recueilli par Laurent Grollet, Marseille où le Rassemblement National perd sa seule mairie d'arrondissement avec l'échec de Stéphane Ravier. Le Rassemblement National qui compte à Perpignan avec la victoire de Louis Alliot, première ville de plus de 100 000 habitants depuis la victoire à Toulon il y a 25 ans. Le RN qui s'impose également à Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Enfin parmi les villes qui basculent, Nancy où la gauche s'impose après 73 ans de règne de droite. Nous reviendrons bien sûr sur tous ces résultats tout au long de ce 7-9 avec un premier invité dès 7h15. Il est 7h07 sur Inter, une convention nationale pour le climat qui tombe à pic puisqu'Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à l'Élysée les citoyens qui ont remis leurs conclusions la semaine dernière. L'occasion pour le chef de l'État de verdir les deux dernières années de son quinquennat. Des citoyens qui attendent beaucoup de ce rendez-vous. Célia Kiray.
Les citoyens veulent profiter de ce moment pour montrer au président que leur copie est complète, à la fois sur les transports, le logement ou l'alimentation. Il n'y a pas que les 110 km/h sur autoroute, loin de là. Sylvain Burquier attend une annonce forte, comme la tenue d'un référendum sur la Constitution ou sur la reconnaissance du crime d'écocide, entendez crime contre l'environnement, une étape juridique qui pourrait bloquer certains projets de bétonisation notamment.
Proposer un référendum avec plusieurs questions, ça n'a jamais été fait. Proposer un référendum sur l'écologie de toutes les manières, ça n'a jamais été fait à ma connaissance. Et on n'est pas en train de vouloir imposer des choses, d'être des Khmer verts comme on peut le lire partout. Non, c'est pas le cas. On porte un projet de société qu'on propose en fait.
Et comme la majorité de ses citoyens, William Ocan est assez optimiste.
Les mesures sont effectivement ambitieuses, elles ne sont pas forcément dans le programme politique qu'il a pu mettre dès le départ, mais je pense qu'il nous a mandaté pour réfléchir à cette question-là et il ne peut pas passer à côté de bonnes idées ou de choses qu'on a fait remonter. Sur l'écocide, comme c'est une mesure qui a été retoquée, l'Assemblée, Sénat et tout ça, et que là maintenant c'est les citoyens qui le proposent et avec référendum, c'est-à-dire faire parler les citoyens. Un sujet comme ça, il ne peut pas passer à côté, je pense.
Et de toute façon, avec leur association des 150, les citoyens comptent bien mettre la pression sur les députés s'ils n'ont pas de réponse satisfaisante de l'Élysée.
Rendez-vous au tribunal de commerce ce matin à 9h pour La Halle, l'enseigne de prêt-à-porter aux 860 magasins dont Vivarte veut se séparer. Plus de 5000 salariés, dont le tiers, voire la moitié, pourraient se retrouver au chômage. Le groupe Bemanoir fait figure de favori pour mettre la main sur la majorité des magasins. Mais derrière, Maxime Debs, la grande distribution est en embuscade.
On lit Carrefour, intéressé par 26 magasins, mais surtout Lidl qui lorgnait aux dernières nouvelles sur une soixantaine d'entre eux. Rien d'étonnant pour Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution.
Lidl gagne des parts de marché de manière quasiment ininterrompue depuis 5 ans et il y a de bonnes chances pour que de nombreux magasins La Halle soient demain des magasins Lidl.
Seulement, selon nos informations, les projets de reprise des chaînes alimentaires pourraient ne pas être étudiés aujourd'hui, mais uniquement dans un second temps. L'un des candidats de la grande distribution sur les rangs nous dit avoir été invité à déposer un nouveau dossier pour mercredi. au-delà de la date préalablement fixée, ce qui questionne Jean-Louis Alfred de la CFDT La Halle.
Oui, je m'interroge. Lidl reprenait les salariés, Carrefour pareil, à condition qu'on présente leur offre. Mais aujourd'hui, on ne les présentera pas dans le cadre de la procédure. Aujourd'hui, on les écarte. Demain, comme ils ne seront pas dans la compétition, ils vont récupérer les magasins qui ne leur plairont pas forcément sur lesquels ils s'étaient positionnés. Mais par contre, quand ils les récupéreront, ils n'auront plus aucune contrainte. Ils reprendront le bâtiment et les salariés, au revoir.
Contacter Carrefour assure toujours être dans un processus de reprise des salariés, reprise qui serait soumise à leur accord. Sur les 860 magasins La Halle, environ 200 seraient aujourd'hui courtisés par la grande distribution.
Et puis c'est en principe cet après-midi que le couple Fillon sera fixé sur son sort dans l'affaire des emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon. 2 ans de prison ferme requis à l'encontre de l'ancien candidat à la présidentielle, mais ses avocats ont demandé une réouverture des débats. La pandémie de Covid-19 avec 2 seuils symboliques franchis ces dernières heures. Plus d'un demi-million de personnes décédées dans le monde et plus de 10 millions de personnes infectées. Le virus continue notamment de faire des ravages aux États-Unis. Enfin, une bande dessinée qui raconte l'histoire croisée du naufrage de la Méduse en 1816 au large du Sénégal et du tableau peint ensuite par Géricault. Dans Les naufragés de la Méduse, Jean-Sébastien Bordas et Jean-Christophe Deverny explorent les méandres de la nature humaine. Jacqueline Pétrose.
C'est un drame né de l'incompétence et de la suffisance d'un homme et de sa caste. Le capitaine Chamarès commande la frégate la plus rapide de son temps, mais n'a pas navigué depuis 25 ans. Après l'échouage, c'est la panique. Nobles et gradés fuient dans les chaloupes, soldats et esclaves s'entassent sur ce radeau de 20 mètres sur 7 sans eau ni vivre. Au musée de Rochefort, il existe une réplique qui a touché les auteurs. Le scénariste Jean-Christophe Devenay.
Il n'y a pas de plancher, c'est juste des poutres qui s'enchevêtent, donc 5 trous dans lesquels les pieds s'enfoncent. Ils étaient 170 et ça faisait une espèce de grappe d'hommes avec tous la flotte jusqu'à la taille. Quand on s'est retrouvé avec ça sous les yeux avec Jean-Sébastien Bordas, ça nous a engagés en fait. C'est-à-dire qu'on allait parler de gens qui avaient souffert et qui étaient morts dans des conditions atroces et qu'il fallait être le plus juste et le plus honnête dans ce qu'on allait raconter par rapport à eux.
Cannibalisme, meurtre, folie, l'affaire bouleverse Géricault qui fera aussi de son tableau un geste politique.
C'est quelqu'un de très humaniste, très en avance sur son temps, Géricault, notamment sur les questions de l'esclavagisme. Et le tableau avait aussi pour fonction de critiquer cette dimension de la politique à l'époque.
Jean-Sébastien Bordas en couleur bleu nuit et ocre et Jean-Christophe Devenay, alternant horreur du naufrage et détermination humaniste de Géricault, tiennent l'attention jusqu'au bout. Ils rendent leur dignité à ces hommes abandonnés à la mer que le génie et la ténacité d'un peintre a empêché de tomber dans l'oubli.
Les naufragés de la Méduse de Bordas et Devenay, publié chez Casterman.
Merci Agnès Soubiran.